Studio Théâtre, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler de théâtre en cette rentrée 2011 qui se caractérise par son audace, son inventivité et l'arrivée de jeunes générations. Nous en parlerons la semaine prochaine. Ce soir, nous avons décidé de donner la parole à l'un des plus jeunes metteurs en scène français qui a plus de 80 ans, mais la jeunesse n'est pas une histoire d'âge. C'est une histoire d'invention, une histoire d'imaginaire, une histoire de porosité avec les textes. Je veux parler de l'immense Claude Régis qui donne en ce moment même au théâtre de la Ménagerie de Verre à Paris et dans le cadre du Festival d'automne un texte adapté des oiseaux de Vézas qui s'intitule « Brume de Dieu ». Rencontre avec un homme exceptionnel, Claude Régis. Mais nous allons d'abord commencer en musique en écoutant Pigeon John, The Bomb.
Drugs in my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a black Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Show, but three to be a legend, even if I'm old. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna taste, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Oh, I'm on the ring walls and my little scarecrows. When they hear my record, well, they all hit the floor. Baby strike a pose, come up in the front row. The homies in the back get the house to roll. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. If you can, sounds good. Now here's the plan. Okay. Let's all sing together like we in the same band. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and okay, now we're gonna reach another whole new level. Grabbing the light on the run from the devil. Been downtown for too long. I feel the sun rising on the twin my bones. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and I'm about to blow up.
Ça, c'est très intéressant. De la semi-conscience.
Oui, voilà.
c'est-à-dire oui, la possibilité de continuer à partir vers l'arrière-mémoire.
Mon inconscient était trop récupéré par les psychanalystes. Il ne faut pas l'employer.
Mais puisqu'on enregistre, alors on va expliquer quand même aux auditeurs que Claude, vous êtes le seul metteur en scène en France qui a assisté à toutes les représentations de vos spectacles. Là, nous sommes à 2 heures avant le spectacle. Non seulement vous assistez à chaque représentation, mais vous avez besoin physiquement d'être présent avant la représentation.
Oui, mais là, je suis venu pour vous quand même.
Oui, mais pourquoi avez-vous besoin d'être présent aussi avant la représentation et voir, sentir le public?
Il y a une préparation générale et on essaye dans ce petit lieu d'instaurer une chose très, très difficile parce qu'on ne peut pas le faire d'une façon arbitraire, mais on essaye de créer un climat de silence autant qu'on le peut, déjà dans le hall, et puis dès que les spectateurs rentrent, et on essaye d'obtenir le silence avant que le noir se fasse pour le commencement du spectacle. Et je voudrais beaucoup que les spectateurs analysent que s'ils continuent à parler de leurs petites affaires, des courses qu'ils font, de leurs problèmes de famille, du fibrome de leur grand-mère, ils ne sont pas
Qu'est-ce
du tout préparés.
Qu'est-ce que vous avez contre les fibromes des grands-mères?
Ben, ça nous casse les pieds. Ils ne sont pas du tout préparés à rentrer dans le spectacle. Alors que si on crée une zone de silence, ils sont perméables à tout ce qu'on peut leur présenter. Je commence dans Presque le noir avec un ralenti extraordinaire. Il faut des gens très disponibles. S'ils sont occupés à faire leurs courses, s'ils n'ont pas lâché leur sac à provisions, ça ne va pas.
Ben, croyez-moi, les auditeurs de France Inter sont très sensibles à vos propos, sont très attentifs, et vous allez nous emmener dans la salle de spectacle. Nous sommes à la ménagerie de verre.
Studio Théâtre, Laura Adler, sur France Inter.
Alors nous voici introduits par vous, Claude, dans cette ménagerie de verre, qui est un lieu en fait destiné plutôt à la danse, et qui a permis à de nombreux nouveaux chorégraphes de naître, et que vous avez choisi dans le cadre du Festival d'automne pour donner donc ces représentations, car avec vous on ne peut pas prononcer le mot de spectacle, il s'agit d'autre chose, quand vous donnez des représentations de Brume de Dieu, qui est une adaptation de plusieurs chapitres de cet auteur, beaucoup trop méconnu, un Norvégien, qui a publié plus de 40 romans, qui s'appelle Vassas, et ce sont plusieurs chapitres que vous avez extraits donc de ce texte absolument remarquable que vous m'avez fait découvrir, car je l'ai acheté avec beaucoup de difficultés. Il m'a fallu faire beaucoup de librairies, mais grâce au succès de vos représentations de Brume de Dieu, ce livre, vous le savez peut-être, est aujourd'hui réimprimé et disponible en librairie. Et il s'intitule « Les oiseaux ». Et on le vend ici, dans le hall de la ménagerie de verre.
C'est un livre absolument bouleversant, je trouve admirable.
Comment êtes-vous tombé sur cet auteur norvégien, qui effectivement est un auteur culte pour certains d'entre nous qui ont eu la chance de le connaître?
Vous savez, les choses circulent, je ne sais plus par qui c'est venu, mais on m'a dit « il faut absolument lire « Les oiseaux ». ». Alors son nom est difficile à prononcer, il s'appelle Tarjei de son prénom, Vesaas en français, mais avec deux A, mais les Norvégiens disent Vesaas, parce qu'il y a un petit O au-dessus du A. Donc c'est difficile à prononcer. Quand on dit Vesaas à Jönfoss, il ne comprend pas de qui on parle, alors que c'est un auteur qu'il vénère et qui a provoqué sa vocation d'écrivain, sa propre vocation d'écrivain.
Alors, il faut peut-être expliquer la vie de cet homme, Vesaas, donc, qui était un fils de paysan,
oui,
qui a quitté sa terre et qui est revenu.
Oui, il ne l'a pas quitté, il a refusé l'héritage paternel, il était l'aîné de la famille, il était désigné pour prendre la suite de son père, donc pour continuer à être cultivateur et diriger une ferme. Il a refusé et il a dit qu'il voulait être écrivain. Alors, on peut expliquer ça parce que dans cette ferme, il y avait des lectures tous les soirs, soit des lectures individuelles, soit des lectures d'une personne pour les autres qui écoutaient, soit chacun lisant dans son coin.
Pourquoi ?
Parce que ces gens s'ennuient, les nuits sont très longues, je suppose. Et il y a peut-être dans ces pays protestants, il y a une tradition de lire la Bible en famille. Et de la Bible, ils sont passés à d'autres écrits, à d'autres littératures. Mais c'est certainement comme ça que ce jeune homme a été mis en relation avec la littérature. Et on sait qu'il a fait une sorte d'université d'adolescents où il a été mis en contact, alors vraiment avec tous les écrivains européens, en tout cas. Et donc il a refusé l'héritage paternel. Il a par la suite racheté une ferme qui lui venait du côté maternel. Et il a donc habité toute sa vie et écrit toute sa vie dans une maison à côté de sa maison natale. Mais il a fui la maison natale comme il a fui la succession de son père. Et il a fui l'agriculture. Mais il reste qu'il est un homme primitif. Il reste qu'il est un homme très en contact avec la nature. Il reste que son écriture est très particulière, parce que dans chaque œuvre, il change d'écriture. Donc on a l'impression que c'est un homme qui a passé sa vie à chercher à rencontrer l'écriture, à rencontrer son écriture. Elle change chaque fois. Il y a un roman extraordinaire qui s'appelle Incendie, dont je recommande la lecture, si on le trouve, qui est d'une écriture tout à fait différente. Et Les oiseaux, les palais de glace sont des écritures tout à fait différentes que quand il écrivait Les chevaux noirs, par exemple. Est une histoire ça, très, très, très violente dans une ferme, dans la paysannerie, en fait.
Vous avez choisi Les oiseaux au centre de ce récit qui s'apparente plutôt à un poème, d'ailleurs, qu'un roman, une forme narrative habituelle.
Tout à fait de l'avis de Méchonnik qui dit que toute vraie écriture est un poème et que l'écriture dramatique et de la poésie, que toute sa route, dont je voudrais d'ailleurs lire un texte, sa prose est un poème. Et les grands écrivains sont des poètes. Ce sont ceux qui inventent quelque chose, qui inventent un rapport personnel avec une langue et qu'ils transmettent ce qu'ils découvrent. Donc c'est... Il n'y a pas de différence entre l'écriture, ça Duras le disait, entre l'écriture dramatique, l'écriture filmique, l'écriture romancière. Il y a une écriture, il y a l'écriture. Et l'écriture, c'est pas tout ce qui s'écrit, parce qu'il y a des tas de gens qui remplissent des papiers avec de l'écriture qui n'en est pas. Et beaucoup de choses sont publiées, on peut dire, qui ne sont pas de l'écriture. L'écriture est très rare et c'est vraiment la rencontre d'un sujet particulier avec cette langue qui elle-même n'est pas... On dit le français est une langue très claire, c'est une langue admirable. Elle n'est pas plus claire qu'une autre. Quand on lit Racine, on ne lit pas Guyotat. Guyotat et Racine ont écrit du français. Mais la langue de Guyotat est celle de Guyotat, la langue de Racine est celle de Racine. Hein, il n'y a pas une langue exemplaire, abstraite.
Et celle de Vézos aussi, on parlait de poèmes, on peut parler de transe, on peut parler de sensorialité, on peut parler de ce personnage au centre de ce texte qui s'appelle Matisse et qui est en relation directe avec les éléments, que ce soit la terre qu'il va travailler, notamment les betteraves, ou que ce soit le ciel qu'il scrute sans arrêt.
Il va travailler, mais il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il est incapable de travailler. Il trouve que le monde va trop vite. Il trouve que le monde se fait avec des machines. Il est hors du temps. Il est dans un autre espace. Et il est dans une autre dimension. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que ce qu'on considère comme un demeuré est en fait une personne différente, mais qui par contre a accès à des choses auxquelles les gens dits normaux n'ont pas accès, comme le langage des oiseaux qui dessinent des traits dans le ciel, qui font des signes avec la trace de leurs pattes dans la boue, à quoi il s'amuse à répondre en dessinant des traces lui-même dans la boue. Donc il échange avec les oiseaux et il a des connaissances, des instincts qui lui font découvrir des choses que d'habitude on ne connaît pas. Et c'est ça que Sarraute dit dans L'air du soupçon. Elle ne parle pas de ce roman qu'elle ne connaissait pas, je crois. Mais quand même, le chapitre s'appelle « Ce que voient les oiseaux ». C'est assez étrange. Et alors elle dit « On croit l'entendre parler », comme elle écrit. Ça montre bien que la langue est celle du sujet qui écrit. Il peut arriver que des individus isolés, inaptes, solitaires, morbidement accrochés à leur enfance et repliés sur eux-mêmes, cultivent un goût plus ou moins conscient pour une certaine forme d'échec, parviennent, en s'abandonnant à une obsession en apparence inutile, à arracher et à mettre à jour une parcelle de réalité encore inconnue. Alors ça, je trouve que c'est admirable et ça traduit exactement, je crois, le vrai sujet du livre. C'est-à-dire, d'ailleurs, Vézaz, sa fille me l'a dit, s'assimiler à ce personnage. Donc Vézaz n'était pas du tout un demeuré. Donc ce qui l'intéressait, c'était de découvrir des choses cachées, des choses secrètes, d'explorer ce qu'il y a de plus sombre dans l'intériorité des hommes. Et donc, ce n'est pas du tout la clarté française, ça n'est pas du tout le rationalisme si répandu dans nos régions, c'est la découverte d'un autre monde, c'est une limite qui est tout d'un coup franchie, on ne sait pas par quel miracle, on ne sait pas par quelle magie, et je sens bien que c'est ça qui agit sur les spectateurs, c'est la révélation de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. D'ailleurs, le personnage dit... J'ai entrevu quelque chose que je ne comprenais absolument pas. C'est tout à fait extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut entrevoir, à travers ce qu'on croit ne pas comprendre, on entrevoit quand même quelque chose. Et quelquefois, c'est un chemin d'obscurité, mais d'une obscurité qui est en concurrence avec la lumière, qui n'est pas séparée de la lumière, c'est-à-dire la recherche de ce que l'association des contraires peut créer comme univers nouveau, comme univers inexploré.
Mais c'est ce que nous ressentons grâce à votre mise en scène, Claude Régis, quand nous arrivons dans ce lieu, la ménagerie de verre, où effectivement il y a d'abord cette zone de silence qui s'installe de manière obligatoire. Ensuite, nous sommes assis...
On essaye de faire sentir que
c'est mieux. Il faut faire silence, il faut faire silence pas seulement entre nous, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme ça que je l'ai compris.
Bien sûr.
Et la communauté des spectateurs aussi, nous faisons silence et nous voyons arriver sur ce plateau un jeune comédien...
qui est une
sorte de parquet.
De souterrain, oui.
Alors, le parquet, très peu éclairé. Alors il faut expliquer dans quel sas vous nous mettez aussi. Vous nous mettez dans un conditionnement psychique, physique et aussi intellectuel rêveur. Il faut qu'on abandonne toutes nos défenses pour rentrer dans le texte.
Absolument, il faut abandonner toutes ces peurs. C'est d'ailleurs une recommandation qui est faite dans toute initiation. C'est de faire le nettoyage total de toutes les peurs qui peuvent nous atteindre et nous paralyser. Mais le lieu ici est très modifié parce que le sol est un sol de ciment, comme celui de cette antichambre que vous voyez là. Donc le recouvrement du sol par une matière brillante, une matière où il y a du métal en fait, et cette matière brillante et noire qui provoque des reflets, fait penser un peu à la surface d'un lac noir, si vous voulez.
Mais il est question de barque et de lac et de possibilité d'en finir...
De naufrage, et c'est ce
voilà.
qui arrive.
De naufrage intérieur ou de naufrage réel.
Ben, il n'y a pas de frontière, je pense. Il n'y a pas de frontière. Et c'est d'ailleurs là, sans aller jusqu'à la fin du livre, ce passage sur le moment où la barque prend l'eau à un point que la noyade est presque certaine, ce voyage fait penser à tous les voyages en barque, à tous les voyages des morts. Et dans ces pays, il n'y a pas de frontière nette entre la vie et la mort. On passe sans coup férir d'un domaine dans l'autre. Et étant passé dans l'autre, on revient dans le premier. Il n'y a pas du tout cette espèce de terreur, cette espèce de condamnation et cette espèce de deuil accroché à la mort. C'est un autre aspect de la vie. On rentre dans un autre univers où la vie est différente et la même en même temps. Donc c'est là qu'on est complètement secoué dans nos habitudes de pensée et dans nos habitudes de vie d'ailleurs.
Est-ce à dire, Claude Régis, que ce travail théâtral est synonyme pour vous d'une étape de purification, comme le faisaient les Grecs quand ils ont commencé à faire naître l'art du théâtre?
Oui, je pense pas à ça, ça serait prétentieux, puis ça ne m'aiderait pas à travailler, je pense. Là, l'expérience qui m'intéresse, c'est personne ne peut s'en apercevoir, parce que vous parliez de plusieurs chapitres. En fait, le texte de ce spectacle a 8 pages, et le spectacle dure 1h25. Ça veut dire qu'il y a plus d'une heure sans texte, il y a plus d'une heure qui est l'au-delà du texte.
Et pourtant, on s'en rend pas compte.
Ben, heureusement.
Mais comment se fait-il? Parce que nous qui rentrons dans le cercle magique et nous qui cheminons grâce au regard extraordinaire de ce comédien à qui nous nous accrochons, nous l'entendons aussi dans sa divagation intérieure. Mais il n'y a pas beaucoup de zones de silence. Il parle tout le temps.
Il parle très lentement. Le langage est délivré très lentement, de manière à ce que chaque son, qui est plus important que le sens, se prolonge et exprime des choses. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire les mots, il ne s'agit pas de parler de l'eau, qui est calme et chaude. Il s'agit de faire sentir qu'on est dans l'eau, qu'on touche l'eau, de faire sentir le calme, de faire sentir une certaine chaleur de l'eau. Et c'est un tout à fait autre travail de comédien. C'est pour ça qu'avec des élèves, quand je fais des stages prolongés, je travaille sur ce genre de choses. Et on arrive, la preuve est faite ici, on arrive à exprimer toutes ces choses qui sont ce que j'appelle l'au-delà du langage, qui est l'essentiel du langage et qui est précisément exactement ce qu'on peut définir comme étant la poésie. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit suggère ce qui n'est pas écrit, et la part la plus importante, la plus vaste, c'est ce qui n'est pas écrit, et qu'il faut faire sentir, c'est ce que les comédiens habituellement ne font pas, d'ailleurs, il faut bien le dire.
C'est-à-dire que c'est le souffle, ce n'est pas tellement l'énonciation des mots, mais ce qui sort de la cage thoracique, et ce qui va être articulé autrement, qui vient frapper notre conscience.
Oui, sûrement d'une façon aveugle, mais c'est aussi presque une question de sensualité. C'est-à-dire qu'il faut que les mots créent sensuellement des sensations et soient avec la force de créer des images. C'est-à-dire que quand vous parlez de...
Comme en psychanalyse, les associations...
Vous ne parlez pas de la psychanalyse, j'ai horreur de ça.
Je
parce
sais que vous avez horreur de ça.
Ça veut rendre clair des choses qui doivent rester obscures. Tout notre travail et tout le travail de Vézas, c'est de toucher à ces choses en les laissant obscures. Il n'y a aucune clarification, il n'y a aucune explication.
Mais pourquoi on repense tellement à votre représentation des jours et des jours après? Pourquoi on veut y revenir pour essayer de percer des secrets qu'on n'a pas compris?
C'est comme l'histoire de la religion qui n'appartient pas aux prêtres. L'inconscient n'appartient pas aux psychanalystes, je leur demande pardon. Mais l'inconscient nous appartient, il appartient à l'humanité, et l'inconscient est partout. Et ces gens qui se penchent dessus avec des stylets pour le décortiquer et pour le rendre clair, tuent l'essentiel de l'inconscient. Donc ce qu'il faut, c'est nous mettre au travail pour voir comment on peut entrer en relation avec l'obscurité la plus noire et la rendre claire et chercher la lumière qui justement vient de l'obscurité. Alors on parle beaucoup de clair-obscur à propos de ces spectacles.
Il y a climat, beaucoup de lumière pourtant. Il y a beaucoup de noir et beaucoup de lumière.
Pas tout le temps. Il y a des fois où les lumières sont extrêmement faibles, extrêmement.
Mais ça,
il y a un équilibre.
Ce n'est pas la première fois, Claude Régis, que vous nous mettez dans l'obscurité délibérément.
C'est pour y voir un peu clair. C'est pour pouvoir penser à autre chose. C'est pour pouvoir être libre d'imaginer. C'est pour pouvoir rendre sa liberté la plus totale possible à l'imaginaire. C'est ça qui est important. Ce n'est pas d'analyser l'inconscient. C'est de libérer toutes les forces imaginatives, toutes les forces de création d'images.
Et comment le fait-on? On le fait par la direction d'acteur, on le fait par cette lumière particulière que vous utilisez, on le fait par cette force de concentration que vous réussissez à obtenir de nos spectateurs.
Exactement, tout ce que vous venez de dire, on le fait, mais les trois, hein, on ne peut pas choisir. On fait tout à la fois, on fait tout ça, c'est vrai.
On a l'impression aussi, quand on voit Brume de Dieu, que c'est comme quand on jette une pierre dans un lac, puisqu'il est beaucoup question de lac.
Ça fait des ondes, oui.
Voilà. Eh bien, nous, spectateurs, on a vraiment l'impression que ce sont des ondes concentriques qui viennent nous envelopper et qui viennent nous aspirer vers notre intériorité et vers des régions peut-être inconnues de nous-mêmes.
Absolument. Mais ça prouve que Vézela, c'est un très grand écrivain. C'est ce qui définit les grands écrivains.
Oui, mais ça prouve aussi que vous êtes rentré à l'intérieur du corpus mythologique et imaginaire de Vézas et que vous avez su rendre sur un plateau de théâtre avec un unique comédien, comme vous l'aviez fait pour Aude Maritime avec Psoa, sa qualité psychique.
Alors je tiens à dire... Ça ne répond pas à votre question, mais je tiens à dire que,
c'est pas une adaptation.
Que le titre Brume de Dieu appartient à Pessoa. Je l'ai pris dans l'Aude Maritime. Mais j'aime bien.
Parce que je ne l'ai pas vu dans le texte de Vézas.
Non, il n'est pas dans le texte de Vézas, pas du tout. Il est dans le texte de l'Aude Maritime. Et ça me plaisait tellement, et puis j'aime bien faire un lien entre les spectacles qui se succèdent. Donc, pour exprimer ce non-rationalisme et ce travail sur l'obscurité, dans le brouillard, il parle aussi souvent de brouillard ou de voile noire. Donc pour exprimer qu'il y avait quelque chose de non-clair, mais que justement, grâce à cette non-clarté, on était en état d'atteindre, de toucher... à la découverte d'une nouvelle sorte de lumière. Et ce que Charot dit très bien pour ces gens qui ont des difficultés et qui en même temps font apparaître des parcelles de réalité jusque-là inconnues.
Ce qui est extraordinaire dans ce personnage de Matisse, quand il nous parle, et il nous parle pendant une heure et demie à notre oreille, vous dites, il faut... se délivrer de nos peurs. C'est ce que je recherche, moi, Claude Régis. Mais nous, spectateurs, nous avons peur pour lui. parce que nous sentons bien...
C'est pas la même peur. Quand on dit délivrer des peurs, c'est pas avoir peur de faire un début de spectacle dans la nuit totale. Pas avoir peur de ralentir la marche de l'acteur qui met 10 minutes à traverser cet espace qui n'est quand même pas très grand. Mais ça, c'est des façons justement d'agrandir l'espace et d'agrandir le temps. Donc, de modifier l'espace-temps et de nous fabriquer un espace-temps qui est le nôtre, dans lequel nous pouvons nous mouvoir et faire apparaître tout ce que bon nous semble.
C'est comme si nous étions dans une grotte, et comme si de cette grotte nous parvenaient des choses d'une zone indéfinie, on peut l'appeler comme on veut, l'au-delà ou de l'autre côté du fleuve.
C'est sûr, mais je pense qu'on est justement dans un monde souterrain. Mais comme j'ai l'habitude d'associer les contraires, ça peut être un monde souterrain et en même temps un monde du ciel. Et tant qu'on n'arrive pas à ces deux choses-là, quand on se contente du souterrain ou qu'on se contente du ciel, on est dans l'erreur. Si on arrive à être à la fois dans le sous-terre, dans l'obscurité, et en même temps dans la clarté du ciel, à la fois dans le poids et à la fois dans quelque chose de complètement volatile, alors on touche à quelque chose qui est près de la vérité parce que c'est contradictoire. Je crois complètement à ça. Tant qu'on n'est pas dans la contradiction, on ne peut pas approcher la vérité.
Comment se trouver une place dans le monde? Comment se trouver une poche dans le monde? C'est un peu le thème de Brume de Dieu que vous montez à la Ménagerie de Verre, Claude Régis. Mais c'est aussi l'éloge de l'innocence de ce Matisse que les autres désignent comme un demeuré ou comme un débile, alors qu'il sait beaucoup plus de choses que tout le monde, mais il sait aussi que les autres le désignent comme débile. Il le sait,
oui, donc
il en a rien à faire.
Il a une lucidité et une conscience très grande. La seule lucidité qui lui fait très mal, c'est comme il ne travaille pas, il ne gagne aucun argent, et que sa sœur, qui a remplacé sa mère, quand la mère est morte et le père sont morts, la sœur aînée l'a pris en charge, parce qu'il était incapable de se prendre en charge lui-même. Donc il sait, puisqu'il sait tout, qu'il est lucide et conscient, il sait que c'est sa sœur qui le fait vivre, c'est sa sœur qui travaille, elle fait des pulls verts toute la journée, elle tricote sans fin, pour se nourrir elle-même, mais en même temps pour nourrir son frère. Et elle arrive à une situation, puisqu'il y a naturellement pas du tout d'inceste dans cette histoire, elle arrive à un moment de sa vie où sa vie devient insupportable, parce qu'elle n'a pas de contact avec sa vraie vie de femme. Et quand elle découvrira cette vie de femme, elle le fera avec un homme, et c'est là que Matisse ne supportera pas la présence d'un tiers et se noiera quasi volontairement.
Ce qui est très impressionnant aussi dans la caractérisation du personnage de Matisse, c'est la confiance qu'il fait aux éléments. Vous avez parlé de la terre, qu'il essayait de cultiver, mais il n'y arrivait pas, donc il ne peut même pas être un journalier. Vous parlez du ciel qu'il scrute sans arrêt et des oiseaux.
Il y a une chose très belle, c'est que comme il a une barque malheureusement pourrie et trouée, mais il a une barque, et donc sa sœur, qui ne sait pas quoi faire de lui, lui dit « tu devrais faire le passeur ». Et donc il passe des journées sur sa barque à attendre quelqu'un à passer, mais il est quand même passeur, et il est passeur d'une barque. Donc ça évoque aussi des mythologies en rapport avec la mort, bien sûr, très 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 prégnantes, qui sont là très prégnantes. Son amour de sa barque, à la fin, il dit
fais attention à moi.
Oui, il dit qu'il est relié à sa barque, parce que c'est le lien avec tout ce qu'il aimait. C'est l'équivalent de tout ce qu'il aime, en fait. Et il dit à sa barque, je fais attention à toi. Fais attention à moi. C'est quand même très curieux de parler à la barque, comme il entend que l'eau parle quand l'eau rentre dans la barque et tente de le noyer. Il l'entend parler. De même qu'il a des visions, il voit des yeux dans l'eau, des yeux qui viennent sur lui et qui lui font la peur exacte qu'on a si on voit l'image de la mort venir vous prendre avec des doigts crochus.
Vous avez évoqué tout à l'heure John Fosse, que vous avez monté. John Fosse qui se dit être le fils spirituel de Vézas, le successeur de Vézas.
Il dit exactement.
Mais vous avez aussi monté Metterlinck, et j'ai beaucoup pensé à votre travail sur Metterlinck en voyant ce travail sur Vézas, parce qu'on est dans un univers où tout parle, où tout est signe, où tout est annonce, où tout est advenu.
Oui, d'ailleurs, il y a un moment où Vézos a été très frappé par le symbolisme. Et il y a une partie de son œuvre, dont celle-là, d'ailleurs, celle du ballet de glace et celle de Les Oiseaux, qui est tout à fait sous l'influence symboliste, absolument. Et c'est vrai que c'est très proche de Metterlinck, parce que, d'abord, c'est tout le temps en relation avec la mort, mais en même temps, ça procède par des touches insondables, par des notes qui sont perdues dans l'air, par une chose complètement volatile.
Pourquoi, finalement, vous orientez-vous de plus en plus, au fur et à mesure que vous avancez, Claude Régis, vers des spectacles sans aucun effet, sans aucun décor, sans aucun accessoire, avec des lumières très étudiées, mais qui vont justement vers l'obscurité, et avec un unique acteur sur le plateau?
Oui, il se trouve que j'aime beaucoup les solos, j'aime beaucoup le dépouillement, et je pense qu'un travail expérimental, qu'une expérience, peut se développer beaucoup plus loin avec un seul être qu'avec une troupe entière. C'est très difficile, c'est pour ça, quand je fais de l'enseignement, je travaille avec une classe entière.
Donc vous enseignez au Théâtre National de Bretagne, à Rennes?
En particulier, ailleurs aussi quelquefois, mais c'est là, à Rennes, que j'ai rencontré cet élève et que j'ai décidé de faire le spectacle avec ce texte qu'il avait passé au cours, d'ailleurs, puisque j'avais donné pour thème des textes de Vézos uniquement. Et il avait lui-même choisi ce passage-là et ce texte-là. Donc je pense que c'est aussi important, le désir de l'acteur pour un texte, l'attirance qu'il éprouve pour quelque chose qu'il va interpréter.
Et vous vivez comme un éveilleur de conscience ou un passeur, justement, d'insondé, d'insondable?
Je veux bien qu'on dise passeur d'insondable, c'est un peu prétentieux, ça m'ennuie, mais c'est quand même ça que je cherche, oui, certainement.
Et la révolution psychique que vous entraînez et que vous produisez à l'intérieur des spectateurs, vous la subissez vous aussi, vous la vivez?
Je ne sais pas, c'est très étrange. Je ne peux pas être ailleurs que dans la salle. Je souffre.
Il paraît que vous vous mettez au milieu avant tout le monde.
Quand je peux, mais maintenant...
Personne ne vous voit, puisque tout est noir.
Je suis plus sage. Je suis obligé quelquefois de me mettre sur une chaise sur le côté, parce qu'il n'y a pas assez de place, évidemment. Il y a trop de demandes. Quelquefois, je me mets sur une chaise
vous
à côté du
votre
radin.
Place.
Oui, je cède ma place. Mais j'aime bien être au milieu des spectateurs et j'aime bien respirer le spectacle à la fois avec l'acteur et le spectateur. Et là, il faut bien considérer que c'est le travail qui continue. C'est une aberration de penser que le travail du théâtre se termine à la dernière répétition. Parce que le public est un élément très vivant, est un élément extraordinaire qui modifie le spectacle. Ça, c'est la seule chose qui est spécifique au théâtre. Parce qu'au cinéma, à la télévision, le spectateur ne peut pas modifier ce qui se passe sur l'écran. Il peut avoir des sensations diverses, mais il ne peut pas modifier ce qui est inscrit sur la pellicule. Tandis que au théâtre, le public agit sur la vie, sur le développement du spectacle. Et certains publics peuvent développer un spectacle, peuvent l'agrandir, peuvent le magnifier, peuvent le pousser plus loin qu'il n'a jamais été. Et d'autres fois, le spectacle ne peut pas se faire. Il y a une espèce de refus qui se dresse comme un mur devant les acteurs. Et les acteurs disent que ce soir, on ne pouvait pas travailler. Donc le public est très important. Il peut améliorer le spectacle, ce qu'il fait souvent si on surveille. Il peut aussi détruire le spectacle et le détériorer. Donc c'est très important d'être à l'écoute. Et aussi, en étant à l'écoute là tous les soirs, je vois jusqu'où je peux aller trop loin. Parce que je vais de plus en plus loin et je vois quand ça suit et quand ça ne suit pas. Et il faut toujours oser. Justement, c'est là qu'il ne faut pas avoir de peur. Il faut toujours essayer d'aller plus loin jusqu'au moment où ça casse.
M'autorisez-vous à revenir?
Il n'y a pas de place. Mais vous pouvez revenir. Vous pouvez revenir parce que j'aime tellement ce travail que j'ai décidé de le reprendre la saison prochaine. Donc on va rouvrir ici à la Ménagerie de Verre avec l'ouverture du Festival d'automne le 15 septembre. Et on jouera 5 semaines. Donc j'espère qu'on pourra inviter des quelques amis.
Voilà une bonne nouvelle et merci infiniment Claude Régis.
Merci à vous.
Vous écoutez Studio Théâtre, un studio théâtre spécial consacré à Claude Régis qui nous a reçus dans son espace à la Ménagerie de Verre. Nous écoutons Les Têtes Raides et Jeanne Moreau, Emma.
Emma, Emma, je ne sais pourquoi, Emma, mais Emma, telle Emma.
Je suis là.
Emma, 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 telle Emma, moi.